podcast France Culture.
Notre invité est un homme souriant. Il est né au Maroc, à l'époque où Pompidou dirige la France, à Kénitra, au nord de Rabat. Son père enseigne le Coran à de jeunes enfants. Année Giscard, immigration sur le Tard, direction Trappes dans le bâtiment. La maman élève les enfants. À 7 ans, ce sera l'école française et jamais un problème avec la police, contrairement à ses propres enfants. À 14 ans, déjà bon orateur, il fonde une association, la bien nommée Issue de Secours, volonté de s'en sortir, prise de conscience du racisme et des inégalités, ambiance « touche pas à mon pote », il croise Jamel et Omar Sy. C'est un prêtre catholique, enfin deux, voire trois, qui lui font prendre conscience de sa valeur et de sa religion. Le père Christian Delorme, curé emblématique de la marche des beurs, comme on l'appelle alors, écrit avec lui son premier livre « Nous avons tant de choses à nous dire ». 1998, Coupe du Monde, la France est encore black blanc beurre. Et que s'est-il passé depuis? Pour le savoir, il pense, il dialogue, il écrit. Il a tout essayé, le roman, le théâtre et la poésie. Il aime regarder les choses en face, à commencer par les attentats. Il aime Jacques Derrida, il n'aime pas les imams Google. Lui qui revendique un islam des Lumières, il a dirigé une collection du même nom dans une grande maison d'édition. Avec Delphine Horviller, il décrit les mille et une façons d'être juif ou musulman et il proclame en chœur « Le débat religieux peut être fécond pour le débat national ». Ça tombe bien, c'est ce qu'on essaye de faire dans cette série intitulée « Les religions dans la République ». Islamologue, romancier, chercheur associé au fonds Paul Ricoeur, notre invité aime le dialogue et refuse de tomber dans ce qu'il nomme « la République du tweet ». Bonjour Rachid Benzine.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce troisième épisode de notre série consacrée aux religions dans la République. Après Christophe Castaner, la laïcité vue de l'intérieur, Mathieu Rouget, évêque et aumônier des parlementaires, et avant Yonatan Arfi, le CRIF et les politiques. Épisode 3, Rachid Benzine, islamologue du dialogue. Nous, les musulmans de France, on se cache, on a l'impression d'avoir le sida. Lors d'un entretien, j'ai entendu pour les postes à responsabilité « il me faut un blanc ». Gilles Kepel parle de djihadisme d'atmosphère, nous d'islamophobie d'atmosphère. Ces trois témoignages ont été recueillis par RMC, Le Monde et Le Parisien, alors qu'un livre écrit par trois universitaires sort cette semaine au Seuil, La France, tu l'aimes, mais tu la quittes, qui raconte ces Français intégrés mais discriminés, qui préfèrent quitter le pays tant ils trouvent l'époque irrespirable. Sommes-nous à l'aube, Rachid Benzine, d'un MeToo du racisme et des discriminations?
Nous sommes à l'aube de quelque chose qui émerge déjà depuis, je dirais, à peu près 20 ans, qui est un désamour vis-à-vis de la société française, d'une population post-coloniale qui est de confession ou de culture musulmane et qui se sont de moins en moins aimés, qui se sont de plus en plus rejetés vis-à-vis de la société française. Le climat n'est pas suffisamment, je dirais, bon pour permettre le dialogue et on voit bien comment il y a une polarisation de la société française et comment les Français de confession musulmane ne sont pas du tout un sujet au sens où ils peuvent s'exprimer, dire leur diversité, leur pluralité, mais sont toujours dits et vécus comme complément d'objet direct ou indirect. Et donc, leur parole a du mal à émerger et c'est important que ce livre existe, qui est d'abord le fruit de plus de 10 ans de recherche et donc qui permet de nous montrer un peu les failles aussi de notre République et ce que nous sommes en train de manquer.
La loi de 1905 s'est construite dans un conflit avec l'Église catholique. Pensez-vous qu'aujourd'hui, l'État fait face au même type de difficultés avec certains musulmans de France ou avec l'islam ?
Je crois qu'il y a un impensé colonial que nous n'arrivons pas globalement à aborder, c'est-à-dire que la France est malade, je dirais, de ses colonies ou de ses anciennes colonies. Et que globalement, il y a un certain nombre de représentations qui sont liées à la notion de l'empire, parce que quand vous êtes un grand empire avec un grand territoire, vous développez automatiquement un grand imaginaire. Le problème, c'est que nous ne sommes plus du tout un empire et que la question de l'islam, c'est tout d'abord une population qui est un peu différente, je dirais, des Français, comme on pourrait se le représenter, des Blancs. Donc c'est d'abord un problème, je dirais, d'une France qui n'arrive pas à accepter qu'elle n'est pas un tableau de Renoir, mais qu'elle ressemble davantage à un tableau de Picasso. Et ce refus de s'accepter de ce que nous sommes devenus avec une image idéale qui est complètement fausse, qui est un peu nostalgique, mais la nostalgie est toujours une reconstruction, c'est ce déni de réalité de ce que nous sommes devenus dans une société qui est assez diverse, qui est assez plurielle, et nous n'arrivons pas à accepter ce récit de la pluralité.
Donc vous diriez que le regain de religieux qu'on peut observer parfois, notamment à l'école, il est lié en fait à un manque d'intégration, à un problème d'intégration.
Je dirais que c'est un recours aux religieux, c'est-à-dire que globalement nous sommes des êtres narratifs et nous sommes les histoires auxquelles nous adhérons. Et donc toute la question c'est quelle est la force du récit républicain? Est-ce que le récit républicain tient globalement ses promesses? Est-ce que nous avons suffisamment travaillé sur le récit de l'immigration pour l'intégrer dans le récit national? Et comme les êtres humains sont en quête de reconnaissance et que ça passe par un récit, ben les gens, je dirais, dans un certain nombre de quartiers, lorsqu'il n'y a que le récit musulman qui est disponible, et puis un récit d'islamité qui peut parfois être très problématique, parce que très identitaire, ou qui est façonné par les mouvements salafistes, wahhabites, ou ceux des frères musulmans, ben ils peuvent automatiquement créer ces ruptures. Mais je crois que cette question-là, il faut l'intégrer de manière beaucoup plus globale dans la société, c'est-à-dire sur les assignations sociales, sur la question des discriminations, et ne prendre les éléments que par le religieux. Je le fais, mais ça me semble un peu aussi très réducteur.
Vous dites souvent toute vie est un récit, toute vie mérite récit, et vous plaidez en effet pour une politique publique de la reconnaissance. Par quoi ça pourrait passer concrètement, une politique publique de la reconnaissance?
Cette politique publique de la reconnaissance est un travail que j'ai fait avec deux think tanks sur justement le lien entre les institutions et les citoyens. Et le grand sentiment qui s'est dégagé sur 3 années, je dirais, de travail, de recherche à travers 4 villes que je nomme Trappes, Clichy-sous-Bois, Maubeuge et Roubaix, le sentiment qui se dégage, c'est une impuissance à changer la réalité. Et cette impuissance à changer la réalité développe automatiquement des récits virilistes qui prétendent, eux, redonner de la puissance en termes soit de souveraineté soi-disant nationale, soit une espèce de retour qui est complètement fantasmé sur le religieux. Or, ce que je crois fondamentalement, c'est que pour faire récit commun, il faut mettre en commun nos récits, il faut mettre en commun nos mémoires. Et que globalement, la question de la reconnaissance, qui suppose d'abord la réciprocité, doit être au centre de toutes les institutions pour ne pas développer des institutions humiliantes.
En 2003, la commission Stasi, qui prépare la loi de 2004 qui interdira le port de signes religieux ostensibles à l'école, propose aussi que notre calendrier soit plus inclusif avec des jours fériés, une fête juive et une fête musulmane. Idée qui n'a pas été retenue par Jacques Chirac à l'époque. C'était une erreur de sa part?
Je pense qu'on a plutôt intérêt à ce que l'ensemble des Français, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur trajectoire, puisse s'identifier à l'ensemble de la société française. Moi, je me rappelle tout simplement, mais je déplace un peu le problème ailleurs. Quand j'étais en 4e, on avait lu Peau de chagrin de Balzac, et dans Peau de chagrin de Balzac, il y a un conte philosophique arabe. Et d'un seul coup, je me suis identifié à cela. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui fait partie de ma culture, qui se retrouve dans la culture française. Et je crois qu'il faut aller vers cette idée de la reconnaissance, parce que ça suppose que la société française n'a pas simplement que des racines, je dirais, chrétiennes. Elle a aussi des racines grecques, celles de l'Antiquité tardive, celles du socialisme, celles du communisme, celles de la Renaissance, mais que l'immigration est aussi, fait partie, je dirais, de la question française. Et il est normal qu'à l'école, on puisse aussi étudier des auteurs francophones qui viennent d'Afrique ou d'ailleurs. Il est normal aussi qu'on puisse avoir des rues sur lesquelles les gens peuvent s'identifier. C'est ça, créer du commun aujourd'hui.
Et aujourd'hui, à l'école, il y a des atteintes à la laïcité. Certains professeurs rapportent, par exemple, qu'en cours de musique, des élèves refusent de chanter pendant le ramadan. D'autres refusent d'aller dans des sorties scolaires, dans des musées, pour voir des œuvres ou étudier des textes littéraires. Comment vous, qui défendez un islam des Lumières, observez-vous ces phénomènes ?
Effectivement, il y a des atteintes à la laïcité, mais ces atteintes à la laïcité ne peuvent pas être, je dirais, comprises en dehors de ce qui se passe au niveau de la société. C'est-à-dire que globalement, il me semble qu'on demande à l'école trop de choses. On demande à l'école de résoudre des problématiques que nous-mêmes, au niveau de la société, nous n'avons pas résolues. Et que l'école, en fait, c'est un écho de nos manquements. Mais lorsque vous avez des ghettos sociaux, lorsque vous avez des discriminations, lorsque vous avez laissé, se développer pendant 20 ou 30 ans un islam identitaire que le pouvoir a laissé. Et en fait, on arrive à cette situation qui fait que parfois ça devient globalement assez difficile. Mais je dirais, c'est par pratiquement 40 ans de politique publique qui nous ramène aussi à cette situation.
Pour moi, la laïcité dans un cadre scolaire, c'est quelque chose de très clair. Vous rentrez dans une salle de classe, vous ne devez pas être capable de distinguer ou d'identifier la religion des élèves en les regardant.
Donc oui ou non, la baya ?
Je vous annonce, j'ai décidé qu'on ne pourrait plus porter l'abaya à l'école. Je vais m'entretenir cette semaine avec les chefs d'établissement et je veux leur rendre hommage. On ne parle pas suffisamment d'eux, les principaux, principaux adjoints, proviseurs, proviseurs adjoints. Ils sont en première ligne sur ces questions de laïcité, sur les questions de harcèlement, sur beaucoup de sujets. Je vais m'entretenir avec eux, leur donner toutes les clés
très précis
pour qu'ils puissent faire appliquer cette règle qui me semble nécessaire et qui est juste.
Et les bandanas sur les cheveux ?
Il y a des situations qui ont pu se présenter comme ça et des chefs d'établissement ont pris des décisions qui ont été validées par le juge administratif. Il y a vraiment sur cette question de l'abaya, et je l'ai mesuré en échangeant avec les chefs d'établissement cet été, leurs représentants, une attente de règles claires au niveau national. Elle est donc donnée.
Gabriel Attal, invité du journal télévisé de 20h sur TF1 le dimanche 27 août 2023. Il est alors ministre de l'Éducation nationale. Vous l'avez vu en direct ?
Oui, je l'ai vu en direct prendre ses propos, comme je le vois en ce moment en direct, aller de plus en plus vers un discours de fermeté, d'autorité, qui pense revenir, je dirais, à l'école des années 50.
Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure ?
Ce que je pense de cette mesure-là, c'est que, effectivement, on peut prendre ce type de mesure, mais lorsqu'on s'attaque pas à la question de la justice sociale autour, on a l'impression que c'est un gouvernement qui cherche à courir après les idées du Front National et qu'ils ne font que cliver cela, comme si finalement la problématique était l'abaya, comme si la problématique était la question du voile. Mais on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a une loi qui est votée ou un décret qui est voté, l'ensemble des Français de confession musulmane l'accepte plus tôt, et on le voit bien à partir de la loi de 2004. Mais cette focalisation à chaque fois au niveau de la rentrée, comme si c'était le problème numéro un de l'école, devient, me semble-t-il, problématique.
Il ne faut pas qu'il y ait que ça, vous voulez dire, parce qu'en effet, ça a baissé ensuite, ces atteintes à la laïcité, juste après cette annonce.
Oui, mais en tout cas, je pense qu'il y a un lien qui est fait, à mon avis, mais qui me semble complètement ruineux pour la pensée, c'est le fait de lier la laïcité à la question du terrorisme. Et depuis 2015, on associe complètement cette idée de la laïcité au terrorisme, et on voudrait que la laïcité prenne en charge toutes nos problématiques, comme si la laïcité était l'alpha et l'oméga de toutes nos problématiques. La laïcité, c'est un principe d'organisation pour la question du multiple, comment on organise une société de la pluralité pour faire un. C'est la question de la séparation. Mais il y a d'autres problématiques, par exemple, la question de la condition de l'égalité des hommes et des femmes ne relève pas de la laïcité. La question des logements sociaux, le refus de la mixité ne relève pas globalement de la laïcité. Et donc on a une espèce de laïcité en termes de représentation qui devient obèse et on ne sait plus de quoi nous parlons, comme si finalement la République n'avait que ce mot-là de la laïcité qui, au lieu d'être un principe organisationnel, et devient de plus en plus une valeur morale, et il y a même une espèce de catéchisme aujourd'hui républicain qui devient problématique. Alors, qu'est-ce que nous avons à proposer, mis à part ces incantations que nous entendons ?
Est-ce que, d'ailleurs, c'est le bon terme, laïcité ? Est-ce qu'il faut toujours l'utiliser ? On aime bien rappeler dans cette série que la loi de 1905 ne l'écrit jamais.
Absolument, mais le problème n'est pas tellement, je dirais, la définition ou la vérité historique. La question, c'est quels sont les usages que font l'ensemble des Français autour de ce mot qui est devenu, je dirais, un mot pluriel. Et on voit bien que nous sommes là face à des imaginaires ou des représentations de la laïcité où certains voudraient complètement bannir l'expression religieuse dans l'espace public et d'autres en d'autres acceptions de la laïcité.
Alors en ce mois d'avril, c'est officiellement la fin des imams détachés. Vous, Rachid Benzine, vous avez pris position récemment dans les colonnes de Libération contre cette mesure qui, dites-vous, stigmatise les pays qui financent ces imams, empêche la consolidation des liens et surtout ne permet pas forcément de lutter contre le fondamentalisme. Vous demandiez de la transparence. Est-ce que vous avez eu ce dialogue avec Emmanuel Macron en amont ?
Oui, absolument. Et là-dessus, je reste toujours sur mes positions. C'est-à-dire que on pense qu'un islam républicain ou des imams qui seraient formés en France seraient des imams républicains ouverts, etc. C'est loin d'être le cas. Et je crois qu'on ne peut pas aborder ces questions en faisant, par exemple, du Maroc, de l'Algérie ou de la Tunisie ou d'autres pays comme des ennemis. Et, ces pays continuent encore à former de très bons imams. Je dirais même parfois d'un point de vue traditionnel. Et je crois que cette rupture, en tout cas cette opposition entre un islam qui serait français, qui serait lié, qui serait complètement déconnecté quelque part de ce qui se passe au niveau international, me semble une mauvaise piste. Mais ce que je veux dire, c'est que ce discours fonctionne dans l'opinion publique parce qu'on pense qu'on a résolu les problèmes.
France Culture, Sens Politique, Astrid de Villene.
En effet, je suis assez fier, oui, d'avoir constitué cette commission, ce conseil de réflexion sur l'islam en France, parce que je pense qu'il peut contribuer, et alors, surtout depuis quelque temps, à faire que les différentes composantes de la communauté musulmane en France, si on peut parler de communauté musulmane, parce qu'en fait il y a des musulmans qui viennent, qui sont français, il y en a d'autres qui sont algériens, il y en a beaucoup qui sont français d'origine algérienne, mais des Marocains, des Tunisiens, des Turcs, des Sénégalais, des Comoriens et d'autres. C'est vrai qu'il y a là un lieu de rencontre entre des hommes qui tous ont des responsabilités dans le domaine religieux ou culturel et qui représentent ce qui est l'essentiel des musulmans qui vivent en France, c'est-à-dire un islam qui est fondamentalement une religion monothéiste, ayant des racines historiques, spirituelles et même théologiques communes avec les religions dominantes en France qui sont le judaïsme, le christianisme, les catholiques, les protestants. Donc il y a des racines communes.
La voix de l'ancien ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe, vous l'avez reconnu, Rachid Benzine.
Absolument, et je pense qu'il avait proposé quelque chose de très intéressant, parce que d'abord, il avait une culture protestante, donc il savait ce que c'était d'abord à la fois la pluralité et la question minoritaire. Simplement, au moment où il propose cela à des interlocuteurs, eux n'ont pas du tout cette culture protestante de la pluralité, ni cette culture démocratique.
On est alors le 28 juin 1990, il était interrogé sur France Culture, il vient de lancer le Conseil de réflexion sur l'islam de France. Et depuis, les gouvernements successifs n'ont cessé de vouloir trouver des interlocuteurs avec la communauté musulmane. Jean-Pierre Chevènement l'an 2000, Daniel Vaillant, puis Nicolas Sarkozy avec le Conseil français du culte musulman en 2003, et désormais le FORIF, le Forum de l'islam de France, lancé par Emmanuel Macron en 2023. Est-ce un vœu pieux de vouloir structurer l'islam en France de la part de l'État?
Je pense que cette idée de la séparation de l'Église et de l'État ne doit pas empêcher que l'État doit s'intéresser à la vie religieuse de ses concitoyens, pas en entrant, je dirais, dans le dogme ou dans les questions de la foi, mais pour éviter notamment qu'il n'y ait pas de troubles à l'ordre public dans les expressions religieuses. Ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est important, je dirais, au même titre que l'État a des interlocuteurs face à certaines organisations syndicales et autres, en termes d'entreprise, par exemple, il est normal qu'ils puissent avoir des interlocuteurs et qu'ils cherchent à avoir des interlocuteurs musulmans. Maintenant, pendant très longtemps, l'idée, c'était quand même, en tout cas l'image qu'il y avait derrière l'organisation, c'était la mémoire de l'organisation de Napoléon Ier en 1808 avec la création d'une espèce d'église juive. C'était quand même ce modèle de centralisation.
Le concordat
avec Napoléon, et c'est ce qu'a essayé aussi de faire Nicolas Sarkozy en forçant les musulmans et en dialoguant avec l'EIF, l'Union des Organisations Islamiques de France. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron et Gérald Darmanin tentent de faire les choses un peu autrement, parfois dans des espèces d'incantations qui n'aboutissent pas. On est plutôt dans le déclaratif. Mais il y a peut-être quelque chose qui émerge avec le ministre de l'Intérieur sur l'idée de partir du local, du régional, parce qu'il a essayé de prendre ici le modèle de Lyon, qui fonctionne assez bien en termes, je dirais, de pluralité de voix. Mais ça mettra beaucoup de temps, mais ça montre aussi que l'ensemble des Français de confession musulmane, leur souci, c'est pas tellement l'organisation de l'islam. Leur souci, c'est pas tellement la question religieuse. Et c'est important de pouvoir l'entendre aussi.
Oui, l'évêque Mathieu Rouget, qu'on a reçu juste avant vous, disait parfois l'État a trop tendance à vouloir faire de la religion musulmane une religion catholique, comme s'il y avait des papes, des évêques et des cardinaux, ce qui n'est pas du tout le cas.
Oui, parce que l'État français n'a connu que cela. Donc du coup, c'est cette organisation centrale avec Napoléon. D'ailleurs, on n'est pas sorti de l'imaginaire royal, puisqu'on a encore un palais qui est celui du palais de l'Élysée. Vous voyez, donc c'est pas facile, une fois que vous changez de situation, que votre pays se transforme, il n'est pas sûr que l'ancien imaginaire disparaisse aussitôt.
Pierre Joxe, qu'on vient d'entendre, estimait, comme vous d'ailleurs, que la meilleure forme serait sans doute une fédération musulmane de France, à l'image de la fédération protestante de France, qui fédère plusieurs entités, plusieurs courants. La fédération protestante actuellement représentée par Christian Krieger, et dont on parlera dans cette série lors du dernier épisode, est née en 1905. Au moment de la loi de séparation des Églises et de l'État. Est-ce que cette loi, écrite il y a plus d'un siècle, est adaptée aux enjeux d'aujourd'hui?
Je pense qu'elle est en grande partie adaptée. Je ne pense pas que l'ensemble, en tout cas des Français de confession musulmane, voit cette loi comme contraire, à ce qu'ils vivent d'un point de vue moral, d'un point de vue existentiel. C'est simplement que, en fait, il y a des inégalités en termes de traitement. vis-à-vis de l'islam par rapport à d'autres traditions religieuses, et que l'islam étant une religion relativement, je dirais, récente dans l'espace public, il faut beaucoup de temps, il faut plusieurs générations pour qu'on puisse trouver l'organisation qui est capable de porter les enjeux de la société.
Quel type d'inégalité concrète voyez-vous, Rachid Benzine, par rapport aux autres cultes?
Je le vois sur le traitement médiatique n'arrange pas beaucoup les choses. Ensuite, il y a beaucoup d'éléments qui relèvent du sécuritaire, c'est-à-dire que le rapport à l'islam, c'est quand même un rapport, je dirais, sécuritaire, qui n'est pas globalement apaisé. Ça, c'est la deuxième des choses. Et ensuite, la non-possibilité de pouvoir, je dirais, avoir de l'argent aussi de l'extérieur. Et on voit bien que ça devient problématique parce que, je dirais, un certain nombre d'églises évangéliques acceptent de l'argent de l'extérieur. Un certain nombre d'églises évangéliques et même de l'église catholique acceptent qu'il y ait des prêtres africains qui viennent pouvoir, je dirais, donner la messe. Et j'en connais beaucoup. Et ça se passe plutôt bien, même si parfois il y a, je dirais, il y a des différences culturelles qui peuvent parfois choquer. Mais que, on ne permet pas à l'islam, en tout cas en termes d'organisation, ce qu'on permet globalement aux autres traditions religieuses, parce que l'islam est vécu comme un élément hétérogène. Les musulmans sont toujours vécus comme des éléments qui posent problème en termes de loyauté, même vis-à-vis de la société française. Lorsque vous êtes français de confession musulmane, vous n'êtes pas à 100% français.
Et déjà, en 1905, le statut de l'Algérie, colonie française, avec cette loi, ça a été très compliqué. Elle n'a pas finalement été soumise à la loi de 1905 pour pouvoir contrôler, déjà à l'époque, le culte musulman, Rachid.
Oui, je crois qu'on n'en sort pas. Et donc, c'est pour ça qu'on est malade, je dirais, de cet imaginaire colonial qu'il va falloir à un moment déconstruire et déconstruire ses représentations.
Le Forum de l'Islam de France, réuni à l'Élysée le 16 février 2023, le FORIF, a préconisé un statut professionnel de l'imam. Est-ce une bonne avis, à votre avis, vous qui avez rendu un rapport en 2016 avec deux universitaires, à l'époque, à Najat Vallaud-Belkacem et Bernard Cazeneuve, ministre de l'Éducation nationale et ministre de l'Intérieur, sur la formation des imams et des cadres religieux musulmans?
En tout cas, dans le rapport qu'on avait remis, il n'y avait pas cette idée de créer un statut de l'imam. Ce n'est pas, je dirais, au pouvoir politique de rentrer dans ces discussions, parfois même des discussions théologiques. Simplement, ce que j'ai envie de dire, c'est que être imam en France, c'est pas très sexy. C'est-à-dire que vous êtes dans des conditions souvent très très précaires, parce que beaucoup d'associations n'ont pas les moyens de payer l'imam. Beaucoup d'associations ne souhaitent pas payer aussi l'imam, parce qu'on partait du principe que l'imam, il doit faire ça bénévolement, parce que, dans les pays musulmans, les imams sont payés plutôt par l'État. Et donc, cette question du statut de l'imam devient elle-même problématique.
Pourquoi les pouvoirs publics ne vous ont pas entendu sur cette histoire des liens, pour vous, essentiels à préserver, à entretenir avec l'Algérie, le Maroc, justement aussi dans ce récit que vous appelez de vos voeux?
Ben, on en revient, c'est-à-dire que au tout début, dans ses discours, le président Emmanuel Macron avait dit « je ne veux plus de cet islam étranger ». Il s'était même fâché avec, la mosquée de Paris. Mais pour des considérations de gaz et des considérations financières, il se rapproche de plus en plus de la mosquée de Paris. Donc on n'en sort pas, c'est-à-dire que globalement, on est dans des incantations, dans des formules déclaratives pour marquer les esprits en termes de com, d'imaginaire, mais la réalité est tout autre. Comme en France, on vote certaines lois pour faire plaisir et au bout d'un moment, elles ne sont absolument pas du tout appliquées. Et ça devient problématique parce que c'est une question de la responsabilité du politique.
Il y a autre chose que vous voulez promouvoir, Rachid Benzine, c'est l'enseignement de l'arabe à l'école, qui est très peu enseigné en France, alors qu'il y a 3 millions de locuteurs. Emmanuel Macron en avait parlé dans son discours des Mureaux, avant le projet de loi confortant les principes républicains. Depuis, il y a eu quelques postes ouverts. Est-ce que vous trouvez que ça va assez vite?
Non, ça va pas assez vite. Et je trouvais d'abord que c'était une bonne idée, comme ça va pas assez vite sur la question de la fondation de l'islam, où l'État ne finance plus du tout cette fondation, alors qu'il avait dit qu'il partait en termes de culture générale, parce qu'on est dans le fait culturel, on n'est pas dans le fait cultuel. Et donc on voit bien qu'il y a des déclarations ici, mais que ce n'est pas suivi, d'une vraie politique. Et je vois bien aujourd'hui que la fondation de l'islam est dans un état économique qui ne va pas du tout, et donc ils ont même lancé une possibilité pour avoir de l'argent du public et des citoyens. Donc on voit bien que l'islam est une variable d'ajustement en fonction des élections.
Est-ce qu'il manque des lieux de culte?
En France, non, je pense pas. Je pense que il y a beaucoup de lieux de culte. Hein, tout dépend de ce qu'on appelle les lieux de culte, mais que globalement, les mosquées se construisent parfois difficilement parce qu'il faut trouver de l'argent. Parfois, les municipalités ne le souhaitent pas. Donc, mais ça fait partie des problématiques à résoudre.
Nous avons intitulé cet épisode Rachid Bendine, islamologue du dialogue, car c'est vraiment le mot qui structure votre engagement, et ça remonte à loin, à vos 14 ans, dans les quartiers de Trappes, où vous fondez une association issue de secours, et où vous faites une rencontre qui semble décisive, celle de Jean-Michel Degors.
Oui, absolument, et en tout cas c'est une véritable chance d'avoir rencontré Jean-Michel Degors. C'était tout simple, on était en train de faire une kermesse pour ramasser de l'argent. J'avais 13-14 ans avec les copains, et on n'avait pas de tour de tombola. Et puis il y a quelqu'un qui se pointe, il dit « moi j'en ai une, si vous voulez bien, allez à l'église ». Et mes amis me regardent, et personne ne veut y aller, je dis « moi j'y vais ». Et donc l'église Saint-Georges, et je rentre dans cette église-là, et là je vois Jésus-Christ, vraiment la croix, et je baisse les yeux, je me rappelle très bien, je baisse les yeux, parce que il y avait cette idée, on ne peut pas rentrer dans une église, vous voyez. Donc,
vous n'étiez jamais rentré dans une église?
Non, je n'étais jamais rentré dans une église, et à l'âge de 14 ans, et donc du coup on va prendre cette tombola-là, et ensuite bah, il vient, il nous aide, et les jours suivants, il amène des gens, je dirais des catholiques qui viennent nous donner un coup de main en termes de soutien scolaire, assistante sociale, voyez. Et donc j'ai bénéficié globalement de cette altérité. Et c'est là où je me suis intéressé au christianisme. C'est à ce moment-là que j'ai lu les Évangiles. C'est à ce moment-là que j'ai lu toute cette approche critique. Et je me rappelle très bien d'un grand auteur allemand qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Eugène Drewermann, théologien et psychanalyste. Et je me suis aussi intéressé à la théorie sociale de l'Église, c'est-à-dire comment, à partir des textes, on essaie de penser le lien social. Et c'est là où je me suis dit, le religieux, il a aussi des ressources qu'il peut livrer à la société.
Il y a aussi dans votre parcours le rôle de Christian Delorme, le curé des Minguettes. On parle souvent de « Touche pas à mon pote » d'Harlem Désir qui cofonde SOS Racisme, mais la marche des beurs, comme on l'appelle à ce moment-là, elle naît dans la banlieue de Lyon, avec Christian Delorme et surtout Toumi Djaïdja, nom qu'on a oublié, porte-parole du collectif SOS Avenir Minguette de la marche pour l'égalité contre le racisme, qui se prend une balle dans le ventre de la police déjà à l'époque.
Absolument, c'est-à-dire que Christian Delorme est mon ami, d'ailleurs c'est le parrain républicain de mon fils, et je suis très content à chaque fois qu'il vient voir la famille. Il fait partie de la famille, il fait partie de cette altérité-là, et grâce à lui, on a pu bénéficier, en tout cas la société française a pu bénéficier de cette marche de l'égalité dont on vient de fêter l'année dernière les 40 ans. C'était une marche de l'espoir, c'était une marche pour l'égalité et la fraternité, et cette égalité fraternité s'est fracassée aujourd'hui dans la société face à ces discriminations qui ne cessent.
En 83, vous, Rachid Bendine, vous avez 12 ans. Quel souvenir vous marque à ce moment-là de cette marche, de l'ambiance de l'époque?
J'ai le souvenir d'abord au JT de 20h de voir des gens émerger, des maghrébins, immenses sur la Bastille, qui revendiquent le droit à l'égalité. Et pour moi, ça représente vraiment la première visibilité des maghrébins dans la société française, avec une revendication toute simple: nous voulons l'égalité. Il n'était pas du tout question de religion, il n'était pas question de discrimination. C'était simplement la volonté d'un groupe d'être regardé comme des Français à part entière.
Cette marche, elle ne part pas de Lyon, elle part de Marseille, parce que 3 ans avant, un CRS a tué d'une balle dans la tête Laouari Ben Mohamed, 17 ans, lors d'un contrôle qu'on appelle alors de routine. Le CRS aura aux assises 10 mois de prison, dont 4 avec sursis. 44 ans après, à Nanterre, Naël est mort lors d'un contrôle routier d'une balle tirée par un policier et provoque 3 semaines d'émeute en France. Pourquoi on en est toujours à ce point-là, à votre avis, Rachid Bendine?
Parce que je pense que la France est malade de l'institution policière, et que les pouvoirs publics ne veulent absolument pas prendre de front cette problématique, parce qu'il y a une peur de l'État, des pouvoirs publics, qu'une partie de la police se retourne contre elle. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, il y a aussi une demande qui devient de plus en plus importante, de demande de sécurité, donc une approche sécuritaire d'un certain nombre de problématiques. Et ça, c'est une demande, je dirais, de la population. Mais au-delà de ça, je crois que nous avons hérité globalement d'une institution de la police qui émerge globalement autour de la guerre d'Algérie. Et que c'est finalement beaucoup de ces personnes ne sont plus là. Il n'empêche qu'il y a encore un imaginaire et une représentation de l'autre. C'est-à-dire, on est passé de Felaga qui était dangereux au musulman qui est dangereux. Et tant que nous n'avons pas fait globalement ce travail de déconstruction, de représentation ensemble, tant qu'on n'aura pas dialogué avec les policiers, je dirais les jeunes et l'État, nous n'y arriverons pas parce que c'est un impensé aujourd'hui républicain de cette police-là.
Est-ce que ça s'est disparu pour vous, ce moment, comme vous le racontez à l'époque, de mélange entre communautés, de prêtres, de jeunes maghrébins? Vous, dans les années 2000, vous avez organisé un voyage à Auschwitz, par exemple, avec des Israéliens, des Palestiniens, des membres de la communauté juive palestinienne. Est-ce que c'est ça qui manque?
Ça devient de plus en plus difficile de pouvoir organiser ce type de discussion parce que j'ai l'impression que même les humanistes les plus ouverts au dialogue sont en train de se refermer dans leur tribu. Et je crois que, notamment avec ce qui se passe aujourd'hui autour des événements, autour des massacres de Gaza, autour de ce qu'a dit la Cour internationale de justice sur la question du génocide, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui semble être cassé dans la République. Et on n'arrive pas globalement à s'opposer pour discuter, pour mettre simplement, en acte nos désaccords. Et alors aujourd'hui, ça se passe sur Twitter, ça finit par enfermer globalement tout le monde, mais il n'y a pas mieux que le vis-à-vis en termes de dialogue et de se dire on n'est pas d'accord, mais ensemble, nous restons quand même français. Il y a quelque chose de commun qui dépasse, je dirais, nos traditions religieuses ou nos traditions en termes de parcours.
Vous croyez au constat que fait Jérôme Fourquet sur l'archipélisation française?
Je n'y crois pas parce que dans la mesure où, lorsque vous vous baladez vraiment dans la société française, ce que je voudrais rappeler, c'est que la France a le taux de mariage mixte le plus fort d'Europe. Ça, c'est important, je dirais. Ensuite, moi, quand je me balade dans la société française, je vois ces solidarités, je vois ces associations qui sont véritablement à l'œuvre. Et donc, tout dépend du prisme que vous avez. Effectivement, si vous vous contentez simplement d'un point de vue sociologique ou en termes de statistiques, etc., ou vous raisonnez simplement à partir des représentations qui sont données sur les réseaux sociaux, effectivement, vous avez l'impression que la France est à feu et à sang, surtout quand vous êtes de l'extérieur, vous n'avez accès à ça. Mais lorsque vous prenez le temps, je dirais, de discuter avec les gens, il y a quelques jours, j'étais dans un grand séminaire universitaire sur l'école de demain, et je vois la vitalité des présentations qui étaient faites dans le milieu rural et ailleurs, comment les gens, notamment ceux de l'éducation nationale et autres, essayent de se démener pour globalement créer, globalement tisser du lien, comment des gens tentent de réparer. Mais on est tellement, façonné par des représentations parfois binaires, parfois polarisante, qu'on a l'impression que la France est devenue ça.
Quand vous dites quelque chose s'est cassé depuis 83, est-ce que c'est les attentats?
Je pense pas que ça soit les attentats, parce que globalement, on a vu que à partir des attentats, beaucoup étaient en train de parler de la guerre civile. Or, ça n'a pas été. Donc, on voit bien que la société française est beaucoup plus solidaire, elle crée des liens, et il y a eu des gens qui ont travaillé pour que, qu'il n'y ait pas plus de rupture. Ce que je pense, c'est que les inégalités ont augmenté, les discriminations ont augmenté, et on n'a pas de récit qui nous donne envie, globalement, de nous impliquer. Les grands récits que nous entendons aujourd'hui dans la société française, c'est le récit du ressentiment et le récit de l'insécurité. Les autres récits, qui sont des récits d'émancipation à la fois individuelle et collective, ont du mal à émerger parce qu'on est constamment dans une logique de clash, dans une logique de rupture.
Parce que depuis 2015, on a la sensation que c'est à ce moment-là qu'un amalgame s'est fait entre, ou un lien très fort entre islam, islamisme, terrorisme.
Je dirais qu'il date de 2001. C'est-à-dire au moment de l'effondrement des tours à New York, il y a eu tout de suite ce basculement-là. Mais ce basculement-là, il a été préparé bien avant, à partir de 79, la révolution iranienne, ce qui s'est passé en Afghanistan, 1995, Saint-Michel avec les bombes, l'attentat de Saint-Michel, la rue des Rosiers. Il y a eu plein d'événements qui préparent cela.
Est-ce que vous pensez que s'il y avait eu à ce moment-là en France un « not in my name », pas en mon nom, comme ça a pu arriver par exemple en Grande-Bretagne ou en Italie, ça aurait changé les choses?
Je ne le pense pas, parce qu'il y a toujours cette idée de vouloir assigner les autres, c'est-à-dire qu'à la fois on dit « vous êtes français, vous êtes des citoyens français », et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on demande aux gens, au nom d'une tradition particulière, de se désolidariser. Mais Quand on vous demande de vous désolidariser, ça veut dire qu'il y a un accord implicite, c'est qu'au départ, vous êtes solidaire. Et donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau de la demande politique.
Ça a fait polémique d'ailleurs à ce moment-là. Beaucoup de Français de confession musulmane ou d'origine disaient jamais on ne le fera, mais ça, c'est arrivé en Grande-Bretagne.
Oui, mais parce qu'en France, je dirais, la Grande-Bretagne est organisée de manière communautaire, ce qui n'est pas le cas de la société française. Et tant mieux, parce que nous avons une autre culture et il faut absolument, je dirais, faire attention à cette culture pour pouvoir la privilégier.
Vous êtes rendu où vous deviez vous rendre avec la rabbine Delphine Horviller au lycée Gambetta d'Arras après l'assassinat du professeur Dominique Bernard. Qu'en est-il ressorti ?
Ben, on devait le faire, ça s'est pas fait pour diverses raisons, en termes d'agenda, en termes aussi d'attente, parce que parfois j'ai l'impression que les attentes sont trop grandes par rapport à Delphine Horviller et moi, et que c'est aussi à chacun dans la société de prendre aussi ses responsabilités, et pas simplement à deux individus en pensant qu'on nous allons changer la donne.
Vous vous sentez un peu seul parfois, Rachid Benzine, à porter l'islam des Lumières ou le dialogue interreligieux ?
On se sent parfois seul face à la connerie humaine et qui résonne et qui ne prend pas du tout en compte la complexité, qui prend pas du tout en compte la nuance et ça c'est accepter en soi de ne pas savoir. Or aujourd'hui on est vraiment dans des sociétés de la certitude. On veut savoir dans quel camp vous êtes, on veut savoir si vous êtes avec les Palestiniens, si vous êtes avec les Israéliens, on veut savoir si vous êtes d'accord avec ce que dit un prêcheur, etc. Donc constamment on vous empêche d'être et ce que vous avez envie d'être et tout simplement d'aborder cette complexité et donc cette réduction de la réalité, c'est ça qui me semble problématique. Et en même temps, je dirais qu'il faut accepter qu'il y ait du tragique dans l'existence et c'est cela, et c'est ce tragique que nous devons traverser ensemble.
Vous dites qu'il y a même du chagrin dans la société française.
Oui, c'est-à-dire que c'est un essai que je prépare, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde les bruits de la société française, on a surtout l'impression que c'est la colère et l'indignation qui sont les bruits qu'on entend le plus. Or, je crois qu'il y a un sentiment sur lequel nous n'avons pas suffisamment travaillé et qui traverse l'ensemble de la société française, c'est le chagrin. Il y a un chagrin français de ce que nous avons été. Il y a un chagrin de ce qu'a été l'école. Il y a un chagrin, je dirais même d'un point de vue identitaire, où on voudrait revenir à une société qui est homogène dans un contexte de mondialisation, ce qui n'est plus possible. Nous sommes dans une société hétérogène. Nous sommes dans une société qui est globalement plurielle. Et il me semble que le chagrin permettrait, si on analyse les institutions sociales et politiques, nous permettrait globalement de passer à autre chose. Mais sauf que pour le chagrin, on est plutôt dans le déni. On n'accepte pas que nous sommes dans le chagrin. Mais une fois qu'on accepte qu'on est dans ce travail du chagrin, il faut du temps. C'est un rapport au temps qui est long pour sortir d'un certain nombre de représentations, pour retrouver un nouvel espace à l'imagination, à l'imaginaire et surtout à l'action. Et c'est ça qui m'intéresse globalement même dans le dialogue, c'est comment je réouvre des possibilités d'être ensemble et surtout de pouvoir agir ensemble.
Sens politique, l'archive de l'invité.
Votre mort, vous y pensez souvent ?
De moins en moins, à mesure que j'avance en âge. À mon sens, il faut accepter deux ou trois choses dans la vie. Premièrement, d'avoir des ennemis, donc de ne pas être aimé de tout le monde, donc de perdre cette espèce de narcissisme. Deuxièmement, d'accepter de vieillir, et c'est très difficile, il faut commencer assez tôt. Et alors seulement, on peut accepter d'être mortel.
Vous avez reconnu cette voix, Rachid Benzine ?
Absolument. Paul Ricoeur, philosophe français, 1913-2005.
Pourquoi vous l'avez choisi ?
Parce qu'il a été très important dans mon parcours intellectuel et universitaire. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, notamment sur l'herméneutique, sur l'interprétation des textes. Je l'ai rencontré d'ailleurs grâce à un autre philosophe qui s'appelle Olivier Abel. Et je continue constamment de le lire parce que je trouve que c'est vraiment le philosophe du dialogue par excellence. Et il prend des détours qui sont difficiles parce que justement, il pense, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il le dit, comprendre, c'est se comprendre devant un texte. Et donc, il faut faire le long détour par les textes, par les signes, les symboles, les tableaux pour pouvoir se comprendre. Et ce qu'il dit là est quelque chose d'assez important sur la question de la mort et le chagrin à avoir avec quelque chose qui se meurt et accepter aussi qu'une partie de ce que nous avons été puisse mourir pour découvrir d'autres vitalités. D'ailleurs, son dernier ouvrage qui a été écrit après sa mort, en tout cas qui a été publié après sa mort par sa famille et les autres chercheurs, ça s'appelle « Vivant jusqu'à la mort ». C'est-à-dire comment retrouver constamment des pulsions de vie face à tout ce qui peut nous faire mourir. Et il a cette expression de l'homme ce qui est tout simplement assez incroyable, c'est-à-dire comment on passe de l'homme faillible à l'homme capable de dire, capable de raconter, capable de faire et capable de s'imputer la responsabilité. Donc c'est une ontologie qui est vraiment positive, contrairement à d'autres ontologies anthropologiques qui disent que l'homme est un loup pour l'homme.
Vous citez d'ailleurs Paul Ricoeur pour définir votre vie, Rachid Benzine, un hasard transformé en un destin par un choix continu. Magnifique phrase. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui nous écoutent pour faire de leur vie un hasard transformé en un destin par un choix continu?
Ce que je leur dirais, c'est justement cette idée du hasard, c'est-à-dire quand ce n'est pas de notre volonté, il y a de l'involontaire dans l'existence. C'est pas votre volonté d'être né fille, d'être né dans une famille française ou moi marocain, je dirais d'être né dans une famille marocaine. C'est un hasard, mais on arrive dans une culture, on arrive dans une langue, on entre dans une conversation qui a commencé avant nous, dans une langue qui n'est pas la nôtre. Donc du coup, il y a une manière d'entrer dans la conversation. Et ensuite, il faut poursuivre constamment cette idée de la conversation. Et la conversation suppose des détours. Et la conversation suppose de ne pas avoir des certitudes. D'ailleurs, cette phrase qui dit « un hasard transformé en un destin par un choix continu », c'est l'idée de cette capacité, elle se trouve dans son bouquin qui s'appelle « Conviction et critique ». C'est-à-dire, c'est important d'avoir des convictions parce que c'est à partir de là que vous allez entamer le dialogue. Mais surtout, il faut être capable de faire un retour critique sur vos propres convictions.
Pensez-vous que nous arriverons à conserver la prouesse d'Aristide Briand, qui avait toujours à cœur, pendant la préparation de la loi de 1905, le souci de pacification des esprits?
Je le pense. Je pense que la France garde un grand prestige et que globalement nous avons toutes les ressources pour faire globalement ce passage et de pacifier la société. Simplement, nous passons dans un moment où il y a des changements structurels, il y a des changements dans le monde et il faut être capable, je dirais, de répondre face à ces défis-là. Et ces défis-là doivent éviter tous les pièges qui nous sont tendus par les extrêmes, qu'ils soient religieux ou politiques.
Quel est votre lieu de culte préféré, Rachid Benzine?
Mon lieu de culte préféré, il se trouve au Maroc d'ailleurs, dans un petit village où est né mon père. Ça ressemble à rien et en même temps c'est quelque chose d'assez nu, d'assez simple et c'est le moment où j'aime me cueillir, voilà.
Merci d'avoir été l'invité de Sens Politique pour ce troisième épisode de notre série sur les religions dans la République. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les autres sur l'application Radio France et sur franceculture.fr. Merci à toute l'équipe. Anne-Claire Bazin à la préparation, Perret Le Gras à la réalisation, Ludovic Auger à la technique et à la vidéo, Félix Delacour. Et merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.